Chers auditeurs de Radio Courtoisie, très heureux de vous retrouver en ce dimanche soir. Bienvenue à vous tous en ce libre journal des amitiés françaises. Ce soir, nous avons un invité et un thème principal. Ils vont tous deux nous emmener jusqu'à 21h. Nous recevons le pasteur Alain Joly, que vous connaissez bien, qui est l'auteur de Bac Maître Spirituel chez Talandier. Et nous le recevons à l'occasion de la très prochaine fête de la Transfiguration, qui est donc le 6 août prochain. Ce sera une émission musicale en quelque sorte, puisque Bach a composé aussi pour cette grande fête chrétienne, enfin autour de cette fête chrétienne. Et donc nous parlons bien sûr de la Transfiguration et nous parlons de ce que Jean-Sébastien Bach a produit autour de cette fête. Auparavant, je rappelle que vous pouvez laisser vos questions, vos remarques, que nous proposerons à notre invité, au standard. Je rappelle le téléphone de Radio Courtoisie. Nous avons la chance d'avoir un standard pour prendre vos messages, chers auditeurs, et même si nous sommes le 2 août, qui n'est peut-être pas la période de la plus grande activité, eh bien, n'hésitez surtout pas au 01 46 51 00 85, 01 46 51 00 85, ou par courrier électronique courtoisie@rc.fr. Nous abordons donc maintenant cette émission donc en direct. Nous avions reçu il y a quelques semaines Marianne Vanier, qui était venue nous présenter la correspondance d'Hildegarde de Bingen, ce bienheureux génie protéiforme du Moyen-Âge. Protéiforme parce que parmi toutes ses richesses, eh bien, il y avait ce talent de compositrice. Eh bien, Hildegarde de Bingen souligne dans sa correspondance que la musique est pour elle la réminiscence de l'œuvre créatrice de Dieu. Hildegarde de Bingen et Jean-Sébastien Bach ne nous enseignent-ils pas finalement la même chose sur l'importance et l'origine divine de la création musicale? La foi religieuse, en effet, est indissociable du génie musical de Jean-Sébastien Bach. Et cette foi contribue à faire de Bach un immense créateur, mais un créateur pour la gloire de Dieu. Ainsi écrivait-il ses lettres au bas de toutes ses partitions, Soli Deo Gloria, pour dire à Dieu seul la gloire. Ses talents auraient sans doute suffi à faire de Bach un immense compositeur, et les épreuves de sa vie auraient pu le révolter et le détourner de Dieu, ou le transformer en chrétien superficiel, en chrétien d'apparence en quelque sorte. Pensons ainsi qu'il voit sa mère mourir sous ses yeux à l'âge de 9 ans. Son père se remarie, c'est certainement une épreuve pour l'enfant. Et un an plus tard, c'est à son père de disparaître. Et pourtant, l'art de Jean-Sébastien Bach nous transporte vers Dieu plus fortement que n'importe quel catéchisme, au point que le penseur, le moraliste Cioran, écrira « S'il y a quelqu'un qui doit tout à Bach, c'est bien Dieu ». Nous comprenons ainsi tout l'avantage à fréquenter Jean-Sébastien Bach. C'est facile, car il a composé quasiment pour toutes les fêtes religieuses. Eh bien, le 6 août, les chrétiens célèbrent la fête de la Transfiguration du Christ, une fête qui est un peu méconnue, mais qui a le tort d'ailleurs de tomber au mois d'août. Nous vous proposons d'évoquer cette fête ce soir, cette fête importante, et nous allons voir, grâce à notre invité, en quoi justement elle est importante, et bien de la commémorer en compagnie justement de Jean-Sébastien Bach. Et puis aussi en compagnie de notre musicologue, spécialiste reconnu justement de Bach, mais aussi théologien, le pasteur Alain Joly. Pasteur Alain Joly, bonsoir.
Bonsoir Monsieur Delcourt, bonsoir aux auditeurs.
Eh bien, c'est un grand plaisir de vous recevoir en direct. Nous sommes très reconnaissants d'être dans le studio, à la fois pour parler de Bach, à travers un choix que vous avez fait de ces compositions que, bien sûr, vous nous comprendrez. et qui sont autour hein, de cette fête chrétienne de la Transfiguration, même si elles n'ont pas été spécifiquement écrites pour la Transfiguration. D'ailleurs, pourquoi n'a-t-il pas écrit d'ailleurs spécifiquement sur cette fête? C'est une question que nous vous poserons, mais en tout cas, votre choix illustre cette fête chrétienne. Et puis aussi, vous êtes théologien luthérien, et vous allez bien entendu nous parler de la Transfiguration, donc un double thème qui va nous amener jusqu'à 21h, et vous êtes très reconnaissant d'être avec nous ce soir en direct. Je vous présente à nouveau aux auditeurs, mais les auditeurs vous connaissent très bien. Vous êtes pasteur luthérien à Paris, vous êtes théologien, vous êtes historien de formation, vous êtes chargé de cours à la Faculté libre de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine, vous êtes conférencier, auteur de plusieurs livres, vous êtes, je l'ai dit, spécialiste de Bach et de Martin Luther. Vous avez écrit plusieurs livres sur ces deux thèmes. Vous avez écrit « Prier 15 jours » avec Jean-Sébastien Bach aux éditions Nouvelle Cité. Vous avez écrit « Bach, maître spirituel » aux éditions Talendier. Vous avez collaboré aussi à un certain nombre d'autres livres. Alors, il y en a un qui est tout récent, qui est intitulé « Au nom du Père » ou « L'audace de la vérité ». Je crois que c'est une pièce de théâtre qui est coécrite par Mgr Ray et Serge Sarkissian, publié à Art, Culture et Foi et aux éditions Onésime, donc à votre maison d'édition préférée, monsieur le pasteur.
L'éditeur appréciera et aussi.
Vous avez collaboré d'ailleurs à cette pièce de théâtre.
Ah non, je n'ai pas collaboré à la pièce de théâtre, j'ai donné à la demande de l'éditeur une contribution sur le thème de la paternité dans l'Écriture Sainte.
Ce n'est pas que la pièce de théâtre sur
ce
livre.
Il y a la pièce de Mgr Ray qui a d'ailleurs été jouée à Paris à l'Espace Bernanos et je crois au Festival d'Avignon.
Oui.
Et l'éditeur, en accord avec Mgr Ray, a demandé à quelques chrétiens d'autres obédiences, dont moi comme pasteur luthérien, une contribution sur le thème de la paternité, le même thème qui est traité dans la pièce, qui est une très belle pièce au demeurant, hein, qui a trois personnages et donc qui nécessite trois acteurs et juste ensuite la mise en scène et l'éclairage. Mais pour ma part, donc, je l'ai intitulé « Un homme avait deux fils » et je pars avec la parabole que l'on appelle couramment l'enfant prodigue pour scruter dans l'Écriture sainte ce qu'on peut trouver d'enseignement. Un enseignement aussi pour notre vie de croyants, non seulement de l'idée de filiation, d'être fils ou fille d'un père et d'une mère, mais aussi d'être des frères, quand la situation le propose par la vie. Les deux frères de la parabole et nous renvoient immanquablement aussi, et de manière peut-être mystérieuse, à Abel et Caïn. Alors il y a tout un développement là-dessus, et sur le Christ en tant que fils de Dieu et frère des hommes par son incarnation, etc. Alors c'est très bref, mais c'est donc la dernière publication que l'on trouve en librairie des éditions Onésime avec Mgr Ray et Serge Sarkissian.
Quand on pense à l'enfant prodigue, on pense à ce merveilleux tableau de Rembrandt extraordinaire du père qui accueille son fils.
Oui.
Et Bach a-t-il composé sur ce thème de l'enfant prodigue?
Le texte de l'évangile donc des deux fils est dans notre lectionnaire, comme l'était également sur une seule année à son époque dans l'Église catholique. C'est le même lectionnaire qui remonte à l'époque de Charlemagne, pour l'Allemagne en tout cas. Et oui, il y a des cantates ou des morceaux de musique que l'on peut rapprocher de l'épisode de l'enfant prodigue et de son frère aîné, qui est aussi très important, et de la miséricorde du père. J'ai fait remarquer que Johann Sebastian Bach lui-même, a eu le comportement du père de la parabole envers un de ses fils, qui était parti d'un poste qu'il lui avait trouvé d'organiste et qui a mené une vie un peu libre, on va dire, et qu'il n'a d'ailleurs jamais revu. Un jeune homme qui avait rompu finalement avec sa famille et pour lequel Bach écrit à un de ses correspondants qu'il l'accueillera à bras ouverts, qu'il l'attend, qu'il lui pardonne à l'avance tout le mal qu'il a pu faire à sa famille ou qu'il s'est fait à lui-même en négligeant les dons reçus et que la bénédiction de Dieu serait toujours pour lui. C'est un très beau témoignage dans la correspondance de Johann Sebastian Bach avec un de ses contemporains où l'on devine l'attitude paternelle vraiment à l'imitation du Christ. Le Christ est quasiment le père de la miséricorde, le père de la miséricorde dans la parabole, en fait. Hein. Puisque ce père est capable d'avoir comme fils deux êtres pécheurs, l'enfant prodigue et l'autre, l'aîné, qui est également peu scrupuleux de recevoir l'amour dont ils sont les destinataires. Et le Christ devient en quelque sorte notre père ou notre grand frère, si l'on veut rester dans des catégories de pensée qui ne choquent pas trop avec l'idée de paternité. Le Christ est à imiter quand on est un père de famille et que son fils est pécheur, ou que ses fils sont pécheurs. Et ça a été le cas dans une histoire très concrète, très réaliste, de souffrance parentale des parents, Bach et son épouse, et la manière dont il a géré cette situation, il n'a pas fait comme un père de famille aurait certainement correctionné son fils à son retour, ou le menaçant même de déshériter, etc. Il dit « je l'attends ». Et quand vous le retrouverez, ben on ne l'a jamais retrouvé, on pense qu'il est mort étudiant à l'université d'Iéna, je l'attends et dites-lui bien que je n'aurai pour lui qu'une attitude de miséricorde, de pardon, d'accueil. Il retrouvera toute sa place et donc l'honneur de notre nom, le nom B-A-C-H, le nom de Bach, n'est pas abîmé. Bien au contraire, un être pécheur dans cette lignée, rattrapé par alors l'aîné, bien sûr, le père de famille, Johann Sebastian, fait que chrétiennement, l'honneur, c'est pas d'avoir accompli de grandes et belles choses, mais c'est d'avoir pratiqué la justice de Dieu, qui est pardon, miséricorde, réconciliation, attente de conversion. Alors, c'est tout sur ce sujet, puisque c'est une incise que vous faites avec ce petit livre que nous recommandons, bien sûr, au nom du Père, aux éditions Onésime, de Monseigneur Ray, d'abord, c'est pas mon livre, hein. Je n'y ai donné que quelques pages d'éclairage sur un passage de l'Écriture.
Vous êtes combien à avoir contribué en dehors de Monseigneur Ray?
Quatre, je crois.
Vous êtes contributeurs. Monseigneur Ray vous a quand même choisi.
Ah oui, bien sûr, il a consenti, nous connaissons bien. Oui.
Il vous a choisi comme, pardonnez-moi, comme ami ou comme spécialiste justement de la théologie ou comme spécialiste de Bach, qu'est-ce qui vous... Spécialiste de la théologie, donc spécialiste de la Bible aussi, naturellement.
C'est un bien grand mot, spécialiste, je suis un lecteur, et j'espère...
Vous l'enseignez,
l'enseigner avec justesse, en tout cas au mieux que de la compréhension, y compris aussi dans la filiation qui est la mienne, de la théologie de Luther et de la Réforme. J'ose croire que c'est les deux, l'amitié et puis le fait que je pouvais dire peut-être quelque chose d'utile au propos.
Vous êtes, pardonnez-moi, pasteur Alain Joly, vous êtes engagé dans le dialogue œcuménique.
Ah oui.
Hein, vous avez fondé l'association franco-allemande Paris-Wittenberg.
Oui.
Et l'Institut culturel Martin Luther. Vous êtes engagé dans le dialogue œcuménique. Ah, j'imagine qu'avec Monseigneur Ray, vous avez des discussions.
Bien sûr.
Sur ce qui vous différencie de ce qui vous rassemble.
Même au-delà, c'est la rencontre de deux chrétiens et avec d'autres personnes. D'ailleurs, nous n'avons pas toujours été seul à seul. C'est avec notre éditeur, bien sûr, mais avec Michael Lonsdale, parce que c'est aussi l'occasion des rencontres avec Michael Lonsdale ont permis celle avec Monseigneur Ray. Regretter Michael Lonsdale, hein, le comédien que l'on sait et le chrétien. En fait, nous sommes tous les deux des chrétiens qui voulons porter témoignage au cœur du monde de la bonne nouvelle de l'Évangile. Voilà, nos différences institutionnelles, confessionnelles, identitaires, catholiques, luthériens, protestants, etc., même orthodoxes, on va en reparler peut-être un peu avec la Transfiguration, n'abîment pas, même plutôt enrichissent la rencontre avec le monde. Voilà, nous sommes d'abord chrétiens. et nous allons vers le monde et au cœur du monde, et nous recevons du monde d'ailleurs beaucoup de belles choses également qui ne sont pas chrétiennes, ou des, bien sûr de notre entourage chrétien, mais nous allons au-devant avec le Christ Jésus, avec le Père de miséricorde, avec le Saint-Esprit au souffle créateur et initiateur de joie. Ce qui se retrouve évidemment de manière presque singulière et typique au sens d'un type musical dans l'œuvre de Johann Sebastian Bach.
Alors justement, vous nous présentez Bach, vous venez de le rappeler à l'occasion de cette incise, hein, ce livre Au nom du Père ou L'audace de la vérité aux éditions Onésime, publié par Mgr Ray, et livre auquel vous contribuez sur un chapitre. Vous évoquez Bach justement comme un père qui essaie d'être père à l'exemple du Christ.
Oui.
Hein, notamment, c'est cette très belle phrase que vous rappelez, que Bach pardonne à son fils et l'attend, en quelque sorte. Et nous avons dit en introduction que Bach avait été très marqué dans sa jeunesse par des épreuves épouvantables. Il perd d'abord sa mère sous ses yeux, il la voit mourir.
Alors je ne sais pas d'où vous tenez
après son père. Je vous montrerai, si vous voulez,
parce que
où j'ai trouvé ça. Et il ne se révolte pas.
Nous n'en savons pas grand-chose, parce qu'il n'y a pas de témoin pour dire qu'à l'âge de 9 ans, j'étais là à côté de Sébastien et il pleurait comme ceci, comme cela. Il n'y a pas de témoignage, en fait. Je veux bien croire qu'il ait assisté à la mort de sa mère pour la raison simple qu'il est encore à la maison familiale à Eisenach lorsqu'il a 9 ans. Il quittera cette maison, qui d'ailleurs se visite aujourd'hui, c'est la Bauhaus, le musée, ou en tout cas on suppose que c'est cet endroit, le musée qui est dans la ville de Eisenach. Il quittera après la mort de son père, c'est-à-dire qu'on a été quelques mois seulement, c'est à peine une année. Maria Elisabetta, sa mère, meurt au mois de mai 1694. Et son père, Johann Ambrosius, qui est le musicien municipal à Eisenach, et pour le prince aussi, de Saxe-Eisenach, il meurt au début de l'année de 1695. Et ensuite, lui, Sébastien, qui a 9 ans, et son frère, qui est juste avant lui, Johann Jakob, sont confiés à un frère aîné qui habite une petite bourgade qui s'appelle Ordruf. Et donc, à partir de ce moment-là, il quitte Eisenach. Et donc, on est absolument certain qu'il est présent dans la maison, mais est-il à leur chevet ? Certainement, parce que c'est l'usage. C'est l'usage. On ne laisse pas partir les gens discrètement en interdisant l'accès aux enfants ou aux proches à la chambre mortuaire. Donc, c'est possible, mais il n'existe pas de documents d'époque. Même de ceux de son fils Carl-Philippe Emmanuel et du gendre Johann Altnikol, qui ont raconté dès 1754 la vie de leur père et beau-père, il n'existe aucun témoignage du ressenti de Sébastien, mais on peut bien penser qu'un enfant de cet âge-là en soit ému, comme on l'est à toutes les époques. Il faut se souvenir aussi que beaucoup de parents meurent jeunes à cette époque, et aussi beaucoup d'enfants. Bach est entouré de morts naturelles, de maladies ou accidentelles, toute sa vie. Il a eu 21 enfants, on dit souvent 20, mais pour une des grossesses d'une des mamans, c'était des jumeaux qui sont morts-nés. La moitié n'ont pas survécu ou sont morts en bas âge. Donc la mort, elle est quasiment tous les ans dans la vie de Sébastien adulte, avec ses deux épouses successives, la première d'ailleurs qu'il perd quand il est en voyage avec son prince, le prince d'Anhalt-Köthen, au Karlsbad, dans un autre endroit que celui où il est musicien professionnel. Son prince l'a emmené avec la petite cour pour aller aux eaux thermales de Karlsbad, et au retour on apprend que Maria Barbara, son épouse, non seulement elle est morte, mais elle est déjà enterrée. Donc ce sont des choses à la longue familière pour Bach. Depuis l'enfance, c'est vrai, mais je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il y a un traumatisme de la mort de sa maman. N'extrapolons pas, laissons-lui cette intimité de douleur, bien sûr, mais il n'en fait état à aucun moment ensuite. Et la mort qui est si présente dans sa musique, l'affrontement de la mort, regarder la mort en face, elle date probablement de ces heures-là, d'orphelin, mais aussi de la suite de sa vie. C'est pas juste une sorte de regard sur le passé où il aurait été traumatisé par la mort des parents. C'est toute sa vie qui est marquée de la mort de proches et de sa foi qui affirme, et plus qu'intellectuellement, qu'il affirme de confiance en Dieu, que la joie accompagne toute épreuve et permet même au Christ de s'inscrire dans l'épreuve partagée. Le Jésus, le Christ, le sujet de la foi, n'est étranger ni à la joie ni à la mort. Il est présent dans les deux et il est pour faire advenir la joie là où il y a la mort et l'épreuve. On peut dire comme ça, peut-être en résumant un peu rapidement, cette relation que l'enfant, Johann Sebastian, ses frères, il est le huitième et, enfant survivant d'une fratrie, et les gens de son entourage, ses propres enfants, ses amis, ses élèves, etc., ont pu le marquer.
Je vous propose, monsieur le pasteur, que nous évoquons, j'ai quelques questions à vous poser concernant Jean-Sébastien Bach, que je vous pose ces quelques questions et nous rentrerons dans le vif du sujet de la transfiguration, si vous le voulez bien, après ces deux, trois questions, qui sont suite d'ailleurs à quelques remarques faites dans l'introduction. Jean-Sébastien Bach, au bas de ses partitions, écrivait donc « Soli Deo Gloria ».
Très exactement, ce sont les initiales seulement, SDG.
SDG.
Et ce n'est pas forcément au bas des partitions.
Mais ça voulait bien dire « Dieu seul la gloire ».
Ah, vous êtes un parfait latiniste.
Non, pas
soli,
du tout.
Soli Deo Gloria.
Ce sont mes sources.
Très bien. « Adieu seul la gloire ». C'est un usage qui est assez répandu d'ailleurs chez des musiciens allemands de cette époque, ou
oui.
Avant lui. Mais lui, il en fait un usage assez singulier, parce que d'abord, ce n'est pas systématique. Ça, c'est très important.
Ah, ce n'est pas systématique.
Ah non,
il n'y avait pas dans chaque partie.
C'est bien mieux ainsi. Parce qu'il a d'autres initiales, et en particulier, JJ, Jesu Juva, Jésus vient à mon aide, qui est au-dessus de la première portée de certaines partitions. On la trouve, par exemple, au manuscrit de l'autographe de Leipzig. C'est un recueil de pièces d'orgue, de petits préludes d'orgue pour précéder le chant d'assemblée dans les communautés luthériennes, et qui donc maintenant sont des petites pièces qui servent pour l'exercice ou pour l'introduction du chant en église ou pas en église. Il écrit « Jesu Juva, JJ » pour demander l'aide de Jésus dans la composition musicale. C'est pour lui, c'est pas imprimé, c'est sur la partition. Et c'est conjoint d'ailleurs à l'appel au Saint-Esprit, parce que le manuscrit de l'autographe de Leipzig commence par une hymne au Saint-Esprit et se termine par une hymne au Saint-Esprit. Mais il y a aussi une autre façon de signaler chez lui cette présence de Dieu à sa composition, à son travail d'écriture musicale, de manière à rendre sonore un langage qui honore Dieu au milieu des hommes. Il le fait en particulier, donc vous l'avez dit, avec SDG. SDG, ça se trouve, par exemple, dans la messe en si, au moment du Gloria, c'est un peu naturel, mais aussi du Kyrie. C'est avant le Kyrie, Bach écrit SDG, c'est-à-dire avant même d'acclamer le Christ qui a pitié de nous, Kyrie eleison en grec, et qui donc se déploie dans la musique de la messe en si, cette œuvre assez prodigieuse, presque un testament, en tout cas une carte de visite pour dire voilà ce que je sais faire au roi de Pologne, Auguste II, son prince. C'est l'affirmation, avant même qu'il joue sa musique, qu'il est dans la disposition de rendre gloire à Dieu. C'est pas une fois que c'est fini, allez, je fais un cadeau à Dieu. Non, c'est déjà en ouverture. Mmh. Et l'autre dernière chose, si vous permettez, c'est BACH, ce sont ces lettres à lui, BACH, qui correspondent aussi à des notes. Et parfois, quand les notes se suivent de BACH, en transcription allemande, c'est à l'intérieur d'une mélodie ou d'une mesure, son nom qui apparaît pour dire à Dieu seulement, parce que l'auditeur n'entend pas BACH, évidemment, on n'entend pas le nom de Bach, on ne cherche pas à le décrypter de la sorte, mais c'est pour dire, je fais partie de la louange qui est énoncée par la musique, et je suis partie intégrante même de la réception de la grâce qui fait que l'on peut entendre cette musique. Jiji, Yezu Yuva, BACH, c'est son nom, qui veut dire rivière, qui veut dire ruisseau d'ailleurs, hein, donc, qui est fluide, qui est flot d'eau nouvelle, rafraîchissante, et puis SDG, à la seule gloire de Dieu.
Mais cela veut-il dire qu'il écrit d'abord pour la gloire de Dieu, pour lui rendre honneur, ou écrit-il pour nous autres?
Alors d'abord, c'est très souvent un professionnel embauché par des institutions d'église ou par des princes, et donc il est payé pour faire de la musique. Mais il produit aussi de la musique qu'on ne lui a pas demandé, comme par exemple les suites pour violoncelle, les suites pour clavecin et violon obligé, inverse, violon et clavecin obligé, ou d'autres pièces instrumentales, y compris d'ailleurs les recueils d'orgue. Il est censé improviser, comme tous les musiciens de son temps, en Allemagne luthérienne, quelques mesures avant le cantique qui va... duquel les fidèles reconnaissent la mélodie justement par cette petite pièce d'orgue. Il les écrit, parfois il les fait graver, ces fameux chorales, les six chorales Schubler, mais ça, on ne l'a pas demandé, on n'a même pas payé pour ça. Ou bien on le paye parce que tout simplement, il est musicien d'église. C'est son métier, c'est son job. Cependant, il est conscient, selon moi, et j'ai l'habitude de le dire dans les conférences, ou même à votre micro, je crois l'avoir déjà dit, qu'il pense premièrement aux auditeurs du ciel. Ses premiers et principaux auditeurs sont Dieu, dans son ciel, avec ses anges. Peut-être la communion des saints. On en reparlera, puisque vous m'avez fait l'amitié de m'inviter plus tard dans l'année pour la fête de la Toussaint. Peu lui importe, en général, la manière dont on reçoit sa musique. Il sait bien qu'elle est supérieure à celle de beaucoup de ses contemporains, ou en tout cas égale, allez, on va dire égale pour les grands musiciens italiens, même son grand ami Telemann, qui est à Hambourg, et puis d'autres encore, bien sûr, il y en a à Vienne, il y en a à Paris, il est très très attentif d'ailleurs à cette extraordinaire musique composée à la fin du XVIIe, au début du XVIIIe siècle, en son temps. Mais ça lui est égal si on ne la comprend pas, et si on l'apprécie plus ou moins. Parce qu'il a conscience qu'en premier lieu, au premier chef, c'est Dieu qu'il veut honorer. Et il veut donc être à la hauteur de cette exigence qu'il s'impose à lui-même, mais qui probablement lui est inspirée par sa foi, peut-être par la puissance même créatrice de l'Esprit-Saint. Et les auditeurs en font ce qu'ils veulent, les auditeurs de cette terre. Elle est pour eux parce que c'est de la musique fonctionnelle, les cantates par exemple, dont nous allons entendre quelques extraits, c'est une musique fonctionnelle, c'est pas une musique pour faire plaisir comme ça esthétiquement, c'est une musique qui a un rôle à jouer dans la liturgie de l'église luthérienne de cette époque, on peut même maintenant l'élargir bien sûr à d'autres moments que la liturgie luthérienne, ou les pièces d'orgue comme on a dit. Toujours, il attire l'écoute du ciel dans l'écoute des auditeurs. Et les auditeurs ne font pas la chose inverse. Beaucoup de gens, je crois que j'ai raconté déjà à votre micro, puis c'est toujours une anecdote plaisante, qu'à Leipzig, dans le moment des grandes célébrations, avec tous ces cantates de dimanche en dimanche, sauf certains temps liturgiques, Bach fait entendre, donc, comme c'est la règle, une cantate avant la prédication et une autre après la prédication, ou une en deux parties. Celle qui précède la prédication, c'est le moment où en général arrivent les notables les plus influents et qui veulent surtout se faire remarquer du pasteur et être là au moment où le pasteur va prêcher. Donc il y a des règlements qui sont affichés et répétés plusieurs fois, imprimés dans la ville de Leipzig, concernant la bonne tenue dans les églises, et on indique en particulier qu'on est prié de ne pas arriver en retard à l'office. Or l'office, il est commencé bien avant la cantate, par des prières, évidemment, qui ressemblent à la messe catholique. Hein. Il n'y a pas là-dessus de grande différence dans la tradition luthérienne et celle de l'église romaine. Et il est attesté que, à cause de ces règlements surtout, qui dit aussi qu'on ne doit pas boire de café, qu'on ne doit pas envoyer de papier plié en forme d'oiseau, les messieurs sur les dames qui sont en dessous, etc., dans les tribunes, il est attesté que les gens ne se tiennent pas forcément très recueillis, très silencieux, et ne sont même pas forcément là au début de l'intervention musicale de Bach avec ses garçons de l'école et ses instrumentistes. Parce que les gens arrivent au moment où on va se faire bien voir du prédicateur. On était là quand le prédicateur, le pasteur qui nous surveille un peu. Et en fait, c'est parce que ces messieurs importants étaient en tribune face à la chair, en tout cas la plupart. Et donc, ça signale aussi pour nous que l'écoute n'était pas du tout celle si attentive, si critique parfois, de cette musique. À Leipzig, je ne dis pas que tous les fidèles de Leipzig avaient ce comportement négligé, vraiment pas très recommandable, ni pour leur temps, ni pour aujourd'hui, mais soyons bien convaincus que Bach n'a pas une écoute des gens de son temps aussi affinée que la nôtre, et que dans le fond, ça lui est égal. Parce qu'il sait que si les fidèles sont distraits ou n'entrent pas dans le propos musical qu'il leur offre, Dieu et les anges, dans le ciel, écoutent. Et pour aucune utilité, évidemment, hein, mais dans le lien qui est maintenu entre lui, un musicien chrétien, et celui qui est son vrai patron, qui n'a pas le consistoire ni le conseil municipal de Leipzig, évidemment que ce sont ses patrons, d'ailleurs, il a fort affaire avec eux en général, mais c'est bien Dieu.
Alors, monsieur Pasteur, je crois que c'est bien vous. Alors, nous allons parler, bien sûr, de la transfiguration, mais j'ai encore deux, trois questions au préalable, si vous voulez bien, si vous l'acceptez. Concernant Jean-Sébastien Bach, puis nous ferons une petite pause de votre choix. Après cette question, je crois que c'est vous, monsieur le pasteur, qui aimez dire que les œuvres religieuses, les compositions religieuses de Jean-Sébastien Bach, c'est un peu comme un catéchisme en musique.
Oui, hein. On peut dire cela, oui.
Et alors, la question que je souhaitais vous poser, c'est justement en quoi Bach nous aide à comprendre, notamment, oui. Je pense à ce que disaient les apôtres. Et on va certainement en parler pour la fête de la Transfiguration. Il y a des paroles du Christ qui sont difficiles à comprendre. Il y a des paraboles qui sont difficiles à comprendre seules comme cela. Et en quoi, justement, Jean-Sébastien Bach peut-il nous aider à comprendre ce qui est difficile au prime abord ?
La première chose à dire, c'est qu'il est un lecteur assidu de l'Écriture sainte depuis son enfance, comme beaucoup de gens de son époque. Hein, dans l'Allemagne luthérienne, c'est pas non plus une exception. Mais il est familier de l'Écriture, donc du catéchisme luthérien et de la théologie du réformateur. Il a deux collections des œuvres de Luther dans sa bibliothèque et beaucoup d'ouvrages de théologiens, souvent orthodoxes et conservateurs au demeurant. De cette époque-là, ou de l'époque précédente, la génération précédente, il est formé, on va dire. C'est quelqu'un qui sait de quoi il parle quand il s'agira de la Trinité, du sacrement de l'autel, du sacrement du baptême, des exigences éthiques du christianisme, etc. Donc ce mot de catéchisme en musique est tout à fait acceptable, même si il n'a jamais eu à mettre en musique le catéchisme. Il l'a fait une fois, le grand catéchisme de Luther, plus exactement la version courte, dite petit catéchisme de Luther de 1529. Il l'a mise en musique avec des pièces d'orgue, c'est la fameuse troisième partie de la Klavierübung de 1739, mais qui sont des grandes pièces d'orgue où de manière sonore mais sans langage parlé, c'est donc muet, c'est simplement les notes de l'orgue et des différentes registrations qui évoquent le catéchisme, l'enseignement que l'on fait aux enfants dans notre tradition luthérienne avec le texte lui-même de Martin Luther. La deuxième chose qui est, me semble-t-il, c'est quand l'écriture est complexe, parfois même difficile à recevoir, ce sont des paroles de Jésus. Et Jean-Sébastien ne propose pas une compréhension d'illuminé personnel, il n'a pas une source d'inspiration directe pour interpréter l'Écriture. Il chemine avec nous. Il me semble que c'est là qu'il y a quelque chose de très fort chez Bach, c'est qu'il ne nous prend pas au dépourvu avec une science considérable, mais avec une science affinée de l'écriture, il chemine avec nous pour entrer dans l'espérance de la compréhension. Voilà comment je le dirais. Et spécialement, vous citiez, sans la référence, et dans l'évangile de Saint-Luc, le fait que les apôtres, qui sont d'abord les douze, là, les disciples que Jésus a choisis, qu'il entraîne avec eux vers Jérusalem, ne comprennent pas ce que Jésus dit. En général, c'est vrai, il y a les paraboles, mais il y a plus profond que cela. C'est l'annonce de la passion qu'ils ne comprennent pas. Nous allons vers Jérusalem, je dois être mis à mort, je dois souffrir la passion, je ressusciterai le troisième jour. En tout cas, il parle à la troisième personne, le Fils de l'homme. Et là, l'évangéliste dit, ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Et nous non plus, nous ne comprenons pas. Dans une émission précédente sur une antenne, non pas concurrente, mais aussi audible en France, j'ai dit que dans ce moment-là, Bach, Jean-Sébastien Bach, nous aide à creuser l'intelligence du propos de Jésus. Mais nous non plus, nous ne savons pas. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas une évidence. Ça n'est pas une évidence que Jésus aille souffrir sa passion, être crucifié, avoir été aussi, bien sûr, malmené par les grands prêtres et les autorités juives. Et puis la résurrection, ça n'est pas une évidence. Et bien pour Bach non plus. J'ose dire cela. Ce n'est pas une évidence où ça le devient par la foi, par l'accueil de la grâce, par l'accueil de se laisser conduire, de se laisser emmener. Dans la parole que nous citons, donc, qui est dans Luc 18, sauf erreur, Jésus dit, nous allons à Jérusalem, et il les conduit, il va les conduire vers quelque chose. Il faut dire, il faut se déplacer avec Jésus. Ben avec Jean-Sébastien Bach, on se déplace en même temps que Jésus et ses apôtres pour aller jusqu'à la compréhension. Et quelle est la compréhension finale qui me semble vraiment très pertinente à recevoir aujourd'hui? C'est cette joie qui a travaillé le cœur et l'intelligence des croyants, et peut-être même de ceux qui doutent et de ceux qui ne croient pas. C'est l'interpellation de la joie. La joie, elle n'est pas une évidence. Elle n'est pas non plus simplement une chose qu'il faudrait se forcer d'accueillir. C'est l'expérience de la rencontre avec Jésus sur nos chemins vers Jérusalem, c'est-à-dire, en l'occurrence spirituellement, la Jérusalem céleste, l'endroit où Dieu nous attend pour tout réconcilier.
Monsieur le pasteur, je vous propose de faire une pause musicale, d'écouter un premier extrait de votre choix.
J'ai choisi dans la cantate 79, le chœur d'ouverture. Alors, la numérotation est celle du catalogue. C'était pour la fête de la Réformation du 31 octobre 1725. En allemand, le texte que vous allez entendre, qui est chanté donc par les voix successives qui vont entrer progressivement avec les différents versets, il n'y en a que trois. Gott der Herr ist Sohn und Schild. Dieu, le Seigneur, est soleil et bouclier. C'est en rapport avec la transfiguration que je l'ai choisi pour vous tout exprès, monsieur Delcourt et ami auditeur. Donc, Dieu, le Seigneur, est soleil et bouclier. Der Herr gibt Gnade und Heer. Le Seigneur donne grâce et gloire. Wird kein Gutes mangeln lassen den Frommen. Il ne refusera aucun bien à ceux qui sont pieux. Frommen, c'est ceux qui sont intègres, qui sont pieux, qui sont croyants, qui sont pratiquants. C'est un verset du psaume 84, verset 12 exactement, de la Bible, qui est en allemand ici, et c'est la Bible, la traduction de Martin Luther, le réformateur. C'est un très beau passage qui ouvre une cantate pour la fête de la Réformation, donc au milieu du service, hein, avant ou après la prédication, comme j'ai dit tout à l'heure, pour l'époque ancienne. Avec les instruments convoqués au plus grand nombre, il y a des tambours et des cors en particulier, en tonalité de sol majeur, c'est-à-dire lumineuse, éloquente, joyeuse, une ritournelle puis une fugue, en tout cas avec les instruments, puis ensuite les quatre voix, ce sont les enfants de l'école de Leipzig que j'ai retenu, là, le fameux Thomanerchor, les héritiers de ceux dont Bach avait la charge, en une immense progression, les quatre voix des garçons de Thomanerchor de Leipzig, sous la direction du très regretté Georg Christoph Biller, dans cet enregistrement, vont jusqu'à une formidable acclamation de qui est Dieu, Christ et Esprit pour nous en éclairant notre vie et notre monde. Et ça se termine d'ailleurs sur une longue tenue du mot Frommen, qui en quelque sorte désigne les croyants, croyants que nous pouvons devenir si nous ne le sommes pas encore, dans le plus grand attachement, la plus grande confiance en ce Dieu qui s'est révélé de la sorte, soleil et bouclier.
Les émissions de Radio Courtoisie arrivent chez vous. Les émissions de Radio Courtoisie viennent à vous, partout. Désormais, dans vos voitures, à vélo, en transport en commun, elles vous accompagnent partout. Dans vos téléphones, dans vos poches, 24 heures sur 24. Radio Courtoisie avec vous, politique, société, religion, littérature, histoire, culture, 24 heures sur 24. Nos paroles s'envolent sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr. La liberté, ça n'a pas de prix et c'est gratuit.
Et mes chers auditeurs de Radio Courtoisie, nous poursuivons cette émission en direct avec le pasteur Alain Joly qui vient nous parler de la fête de la Transfiguration en compagnie de Jean-Sébastien Bach. Cette première partie de discussion a bien sûr tourné tout d'abord autour de Jean-Sébastien Bach, la manière dont il compose en effet sa musique, l'importance qu'elle a, de le souhait en tout cas que Jean-Sébastien Bach a de rendre honneur et gloire à Dieu, c'est son premier objectif. Et puis la manière aussi dont Jean-Sébastien Bach, sa musique religieuse, peut nous aider à comprendre ce qui est parfois difficile, à comprendre des évangiles ou des paraboles du Christ. Et c'est un peu le cas ce soir, puisque nous allons parler de la fête de la Transfiguration aussi, qui est pas forcément très simple à comprendre, et le pasteur Alain Joly va justement nous apporter justement cet éclairage dont nous avons besoin pour concernant la signification de cette fête chrétienne. Monsieur le pasteur, pourquoi la Transfiguration, la fête de la Transfiguration qui est le 6 août, vous allez nous lire d'ailleurs un des évangiles, puisqu'il y a trois évangélistes qui parlent de cette fête, pourquoi pas les quatre d'ailleurs? Eh bien, pourquoi est-ce une fête importante et quel est le but de cette transfiguration?
Peut-être faut-il nuancer votre propos, ce n'est pas véritablement une fête importante parmi les chrétiens.
Ça commence mal.
Ben oui, sauf peut-être en orthodoxie où elle a énormément de sens, vous savez certainement, où vous découvrez que les écrivains d'icônes doivent commencer leur parcours en atelier par une représentation, l'icône de la Transfiguration, comme le prémisse, cette révélation de la gloire, en conversation avec l'Ancien Testament et en présence des apôtres qui feront l'Église, en prémisse donc de tout un cheminement de foi et d'approfondissement, ce qu'on disait tout à l'heure, entrer dans l'intelligence de l'histoire du salut, de l'incarnation, de l'orientation que Christ donne à l'histoire. Mais dans nos traditions occidentales, sauf si vraiment il y a des prêtres ou des pasteurs qui, avec leurs fidèles, organisent une fête ce jour-là, le 6 août passe un peu inaperçu. Je veux dire d'une manière paroissiale et publique. Si c'est un dimanche, ça prime, je crois, sur le dimanche de l'Église, le dimanche ordinaire, comme vous dites. Pour nous, le 6 août est dans le calendrier de manière presque anodine. Si l'occasion se présente et qu'on peut rassembler des fidèles, célébrer un office, on le fera. Mais j'ai vérifié d'ailleurs dans nos liturgies aussi, dans d'autres pays qu'en France, aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, en Suède, etc. La fête est très secondaire parce que nous lisons, et ça c'est une spécificité luthérienne qui remonte à ce que j'ai évoqué tout à l'heure, le lectionnaire carolingien. Nous lisons le texte, un des trois récits de la Transfiguration, le dernier dimanche avant le mercredi des cendres, donc avant l'entrée en carême. C'est le dernier dimanche du temps de l'épiphanie, c'est intéressant, dernier dimanche du temps de l'épiphanie, donc de ce déploiement des théophanies de Dieu, la manière dont Dieu s'est manifesté en Jésus-Christ, la première épiphanie avec les mages qui viennent à Bethléem, la deuxième qui est le baptême de Jésus, celui-ci est mon fils, mon aimé, et on va y revenir parce que cette parole même du Père des cieux se retrouve à la Transfiguration. Et puis, la troisième qui est traditionnellement le miracle des noces de Cana. les trois épiphanies, puis ensuite il y a des dimanches après l'épiphanie dans notre calendrier luthérien, en nombre selon la fête mobile de Pâques, donc soit il y en a deux ou trois, soit il n'y en a qu'un seul, et on arrive au mercredi des cendres. Et le dimanche qui précède, le dernier dimanche du temps de l'épiphanie, pour nous les luthériens, c'est le dimanche qui précède le carême, et donc la méditation ensuite de la passion, etc. C'est très intéressant parce que ça inscrit la transfiguration d'abord dans ce sens épiphanique, de manifestation de la gloire de Dieu en Jésus-Christ, et qui est une gloire qui va passer par l'épreuve de la croix, d'où ce porche vers le temps de carême et de la passion. Donc du côté luthérien, nous avons mis l'accent, mais c'est immémorial, je ne sais même pas à quel moment, c'est probablement même quelque chose de la fin du Moyen-Âge qui persévère dans la réformation de Luther et de ses successeurs, et dans nos calendriers à nous maintenant. Le porche de la passion du Christ, c'est la transfiguration. C'est une bonne façon d'accueillir ce texte, parce que le texte qui est dans le Nouveau Testament, à trois reprises avec des nuances, effectivement, suit l'annonce de la première annonce de la passion par Jésus à ses disciples. Et puis, la fête du 6 août est relativement récente. On la sait attester en France ou en Occident, vers le Xe siècle, vous voyez, c'est quand même très tardif, et de manière plus universelle, donc obligatoire, à partir du XVe siècle. On ne peut pas dire que c'est la plus grande fête du christianisme. Pendant 1400 ans, on la fête selon les endroits où on passe dessus sans faire attention, ou bien, tout simplement, le récit lui-même de la Transfiguration est inséré dans les lectures d'un dimanche qu'on dira beaucoup plus classique. Voilà pour ce que je perçois de l'importance de la transfiguration dans le calendrier, et c'est bien maigre, excepté, comme j'ai dit, pour les orthodoxes, où ça a beaucoup d'importance, y compris dans la vision qui a été permise à Pierre, Jacques et Jean. Elle devrait être à tout le peuple des fidèles, comme en orthodoxie, l'icône de la transfiguration est une icône majeure. Mais chez nous, en Occident, si vous interrogez les gens dans la rue, d'abord il y en a plein qui vous diront on ne sait pas ce que c'est exactement qu'à transfiguration. Et si on commence à entrer en profondeur, parce qu'on va essayer de le faire, n'est-ce pas, monsieur Delcourt?
Ah, grâce à vous, avec votre aide,
on doit passer par la défiguration. On doit passer par la défiguration de Jésus, en tant que c'est lui qui va restaurer notre ressemblance à l'image, à la ressemblance de Dieu. Notre dissemblance qui vient de notre péché, de l'origine même de la rupture d'avec Dieu dans le récit de la Genèse avec Adam et Ève, c'est assez manifeste, si on peut dire, employer ce mot pour ce moment-là. Et la restauration de la ressemblance passe par la défiguration du Christ à sa passion, car on ne l'a pas reconnu. On a dit, mais c'est l'homme de douleur, comme la prophétie d'Ésaïe. On entre dans une profondeur quasi indicible et qui est fixée dans cet épisode qui se situe à peu près exactement au même moment dans chacun des récits évangéliques et qui est rapporté par saint Pierre dans sa deuxième lettre comme témoin oculaire et auriculaire aussi, puisqu'il dira dans la deuxième épître de Pierre, on reprendra ça tout à l'heure si vous voulez, qu'il a entendu et qu'il a vu, et que nous étions, même c'est un nous, un pluriel. Donc il y a quatre mentions du récit de la transfiguration, trois dans les évangiles,
une dans
Matthieu, Marc et Luc, et puis dans la deuxième lettre de Pierre.
Comment expliquer cette importance relative, hormis chez les orthodoxes? Parce que c'est quand même un événement extraordinaire, où c'est la première fois que les apôtres voient Dieu, en quelque sorte.
Il n'y en a qu'une, on ne peut pas dire qu'il y en
ait
d'autres.
C'est la première et la dernière.
De cette intensité-là,
oui.
Il n'y en a pas d'autres. Cependant, les visions de Christ, Jésus ressuscité, ont quelque chose à voir avec cette manifestation de splendeur. Sauf que quand il apparaît ressuscité, il n'est pas avec ce visage extrêmement solaire, ni les vêtements d'une blancheur qu'aucun artisan peut faire, etc. Quelques exégètes, quelques théologiens qui étudient l'écriture dans les temps anciens avait émis l'hypothèse que la transfiguration ne s'est pas déroulée avant la passion de Jésus, mais que ce serait le souvenir, dans les récits qui s'y trouvent dans le Nouveau Testament, le souvenir d'une apparition du ressuscité. Ça aurait d'ailleurs toute sa cohérence de dire cela. Oui, bien sûr, alors là, on n'est pas dans l'ordre de l'annonce, ni dans quelque chose qui émerveille, qui stupéfie, et qui immobilise les trois qui veulent, en tout cas par la bouche de Pierre, dresser des tentes pour que tout s'arrête. On serait dans un autre dynamisme, celui de la résurrection, où effectivement Jésus n'est plus seulement l'homme de l'incarnation, le fils de l'homme, le fils de Dieu descendu en humanité. Il laisse percevoir dans l'épisode, s'il est avant la résurrection, ce qu'il advient de lui, en retour, cette lumineuse personne auprès du Père, et avec l'esprit, parce que l'esprit est présent aussi dans ce récit. C'est assez considérable. Peut-être que c'est une notion théologique dans le sens qui examine qui est Dieu, qui est difficilement perceptible au peuple des fidèles, et peut-être même aux théologiens, et à nous tous. Et ça aurait été comme un prolongement de la fête de Pâques, ou une annonce de la croix de Jésus, que c'était suffisant. Je remarque que le 6 août, c'est 40 jours avant le 14 septembre, qui est la fête de la croix, la contemplation de la croix, qui est aussi une fête qui passe inaperçue, n'est-ce pas? Et pourtant, il y a peut-être là, chez les anciens qui ont fixé ces choses, c'est pas Dieu qui a dit le 6 août, vous allez célébrer la transfiguration, ni Jésus qui a ordonné quoi que ce soit. C'est la mise en forme d'un, je reprends votre mot pour la musique de Bach, d'une catéchèse, d'un catéchisme qui passe par le calendrier. On n'est pas obligé de célébrer Noël le 25 décembre. Si on veut célébrer la naissance de Jésus, on peut le faire aussi aujourd'hui. C'est notre joie de chaque jour. Et la crucifixion, et la résurrection, et la transfiguration. Et peut-être que la présence de ces deux fêtes au cœur de l'été, 6 août, 14 septembre, les rend encore plus, ou encore moins, perceptibles par l'Église. Mais l'Église n'y est pas inattentive, hein, je n'ai pas dit cela. Cependant, ce ne sont que compléments des deux sommets du calendrier liturgique, qui sont le Vendredi Saint et Pâques. Vendredi Saint pour les souffrances du Christ, le don total à la croix, de l'amour, qui se livre et qui va ouvrir au jugement du monde, du diable et du péché, et donc de nous. Et puis la fête de Pâques, qui est la lumière, la résurrection de Jésus est suffisante, la transfiguration est comme un petit confort, un petit contrefort qu'on met avant ou après, ou qu'on met et avant et après, et qui aide à entrer dans le mystère pascal. Pâques reste la fête principale et suffisante de tout le calendrier chrétien, et c'est pourquoi chaque dimanche est une fête de Pâques.
Mais alors, monsieur le pasteur, pourquoi la transfiguration? Quel est le but?
Le but, c'était de préparer les trois, Pierre, Jacques et Jean, à l'intelligence de la résurrection.
C'est-à-dire?
Quand ils sont témoins des guérisons, des miracles, des discours de Jésus, ils ne perçoivent pas le sens salutaire. Ils perçoivent, sur l'instant, comme nous l'aurions été avec eux, l'extraordinaire présence d'un Dieu qui prend soin de son peuple, mais qui ne va pas l'emmener à le fait de guérir des malades, de prêcher des paroles intéressantes et qui mettent en route les gens, n'ouvre pas au salut. Ce qui ouvre au salut, c'est la croix, le sang de Jésus à la croix, et sa résurrection le matin de Pâques, et son ascension. Et la transfiguration annonce ces trois choses. Elle annonce les trois.
Vous allez expliquer pourquoi la transfiguration annonce en effet ces trois choses, et notamment après la lecture d'un des évangiles qui l'évoque, l'un des trois évangiles qui l'évoque. Mais j'avais quand même encore, si vous voulez bien, une question à vous poser. Les apôtres ont conscience, avant la transfiguration, que Jésus est le Fils de Dieu, puisqu'il
non. Non, on peut pas dire ça.
Il y a déjà le baptême.
Et ils n'en sont pas témoins. Et ils arrivent qu'après.
Il y a les disciples de Jean-Baptiste, ils l'ont rapporté, ils l'ont raconté.
Non, et c'est Jean qui raconte cela seulement. C'est Jean qui dit « J'ai vu et j'ai entendu la colombe descendre » et qui a désigné « Celui-ci est mon fils bien-aimé ».
Alors, ça probablement,
non, parce qu'il n'y a pas la croix, là. Il y a la désignation par le Père, que celui-ci va accomplir le salut par la croix, la résurrection et l'ascension.
Mais au baptême, il n'y a rien de tout ça. Il n'est pas dit que Jésus est le Fils de Dieu ? Dieu ne dit pas au baptême.
Il dit qu'il est son Fils bien-aimé que l'on doit écouter. C'est la même parole que dans la Transfiguration. Mais le Fils bien-aimé que l'on doit écouter doit accomplir quelque chose. Il n'est pas encore le Sauveur. Oui. Au Jourdain, là, il faut être assez strict, je pense, par rapport au texte. Et c'est dans donc, le chapitre 4 de saint Marc. Quand le Baptiste plonge Jésus dans le Jourdain, Jésus n'a pas encore accompli. C'est au contraire, c'est le geste initial qui atteste que c'est bien lui qui va accomplir le dessein salutaire pour tout Israël et le reste du monde et le cosmos, si on veut. Mais pour l'heure, non seulement il n'y a pas Pierre, Jacques et Jean qui sont dans les parages, et si jamais ils y avaient été, ils auraient été dans une foule venue pour écouter Jean-Baptiste et pour recevoir, eux, le baptême, qui est juste, c'est même pas un baptême sacramentel, c'est un baptême qui signifie qu'on est d'accord d'être lavé par l'amour de Dieu et parce qu'on se convertit. C'est pas du tout le moment de la rédemption. Il y participe, j'en suis d'accord. Mais la rédemption n'est acquise qu'au sang de la croix. On ne peut pas dire à l'avance, oh bon, tout va bien se passer, non, Dieu dans son sel vous sauve. Il faut l'incarnation jusqu'à la croix.
Certes, mais néanmoins, au baptême, il y a cette voix, cette colombe.
Elle ne dit pas que c'est le Rédempteur, elle dit qu'il est le Fils bien-aimé.
Alors que la Transfiguration...
Les
apôtres savent qu'au baptême, Jésus a été reconnu
témoins du baptême au Jourdain.
Oui.
Et si bien, quand bien même il l'aurait été, il n'aurait pas compris davantage que les gens qui étaient là, les Israélites qui étaient là, qui étaient contents d'aller signifier leur désir de conversion et de mener une vie nouvelle, meilleure, etc. L'appel de Jean-Baptiste, c'est l'appel à conversion. Il n'annonce pas la passion. Jésus, juste avant la transfiguration, va annoncer justement à ses disciples, aux 12, à Pierre, à Jacques et Jean, entre autres, que ce Fils de l'homme, dont vous avez peut-être vaguement entendu qu'un jour, au bord du Jourdain, on a dit que c'était le Fils bien-aimé de Dieu, il doit souffrir sa passion, être mis à mort, être crucifié et déposé dans un tombeau, et le troisième jour, il ressuscitera. Ça, c'est une nouveauté. Quand donc, je vais même plus loin, quand donc ils sont sur la montagne avec Jésus, Pierre, Jacques et Jean entendent pour la première fois que celui-ci est le Fils bien-aimé. Et pourquoi ? C'est parce que ça va leur permettre à eux, qui vont être les piliers, les colonnes de l'Église, c'est eux qui vont avoir le témoignage, le bon dépôt de la foi. Ce n'est pas les gens qui étaient là comme ça, qui ont vaguement su que Jésus était un Fils de Dieu.
Nous allons vous écouter.
Il est le Rédempteur, là, maintenant. Ils vont le comprendre parce qu'il est en conversation avec Moïse et Élie.
Pasteur Alain Joly, à quel moment Jésus, est-ce que c'est avant ou après, où Jésus s'adresse à Pierre, pour toi qui suis-je ?
C'est avant. Dans les trois évangiles, c'est avant.
C'est avant. Et pourtant,
mais c'est pas qu'à Pierre, au demeurant, il faut être très clair là-dessus, c'est à l'ensemble des collèges apostoliques. Qui dites-vous que je suis ?
Et c'est Pierre qui répond correctement.
Et c'est Pierre qui répond et qui se fait rabrouer après quand il dit, quand Jésus commence d'annoncer la passion, il dit « Ah non, Seigneur, ça ne t'arrivera pas !» Et Jésus lui dit « Arrière de moi, Satan !» Vous voyez qu'on est bien dans cette logique d'essayer d'entrer dans l'intelligence de l'histoire du salut. Ces étapes sont nécessaires et que tout n'est pas déjà au baptême au Jourdain.
Oui, pasteur Alain Joly, peut-on dire alors que Jésus a déjà annoncé et... Pierre a répondu correctement qu'il est le Fils de Dieu.
Dans l'ordre,
mais
c'est...
la transfiguration annonce autre chose.
Bien sûr, elle va plus loin.
Peut-on dire cela ?
Je vais le reprendre les trois choses. La première chose, c'est l'annonce de la. C'est la question, pardon. La question. Qui dit-on que je suis ? Ah, tu es Jean-Baptiste, Messie, etc. Qui dites-vous que je suis ? Réponse : tu es le Messie, le Fils de Dieu, dans l'un des témoignages. Ensuite, Pierre entend avec les autres l'annonce de la passion. C'est après le « qui dites-vous que je suis ?» Et Pierre dit « Ah non, ça ne t'arrivera pas. » Comme s'il allait empêcher « Ah non, on ne va pas aller à Jérusalem. C'était donc pour ça qu'on devait aller à Jérusalem te suivre. C'est pour que tu sois mis à mort. » Il n'en est pas question. Et que dit Jésus alors ? Que ses paroles ne lui sont pas inspirées de Dieu, que c'est un autre, donc le diable. Et il se retourne et renvoie. Alors Pierre, c'est pas seulement Pierre, c'est celui que Pierre a écouté, le Satan. Arrière, Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu. Vous voyez bien qu'on est dans une progression. Et maintenant, on va arriver à la transfiguration. Donc, à la limite, reprenons même avec le baptême, où, où le Père désigne Jésus, baptisé par Jean, d'un baptême de repentance, qui n'apporte rien sinon pour Jésus le fait qu'il s'associe au peuple d'Israël disposé à la conversion, à la repentance et à l'accueil de la grâce, et à essayer d'être dans une disposition meilleure qu'auparavant. Le compagnonnage des 12, et spécialement Pierre, Jacques et Jean, qui sont un peu mis à part, et pas seulement dans ce passage, hein, comme ceux qui vont être les garants ensuite du véritable évangile, de qu'est-ce qui s'est passé avec Jésus, qu'est-ce qu'il a annoncé. Ces trois-là et les autres sont questionnés sur qui est Jésus pour eux. Pour eux, qui dites-vous que je suis? Et puis, il répond au nom des autres, Pierre, tu es le Messie, le Fils de Dieu. Voilà, il a une totale confiance en lui, une foi extraordinaire. Et à l'annonce de la Passion, tout s'écroule. Ah non, ça ne t'arrivera pas. Mais le dessein de Dieu, c'est de passer par la croix et la résurrection. C'est pas de dire il y a un gentil Jésus qui va vous faire du bien, qui va distribuer des bénédictions aux uns et aux autres, des miracles, et vous êtes tous contents, Dieu existe, et c'est pas la question. La question c'est, êtes-vous oui ou non sauvé? Et par quoi êtes-vous sauvé? Par le sang de la croix. Et je vous l'annonce, dit Jésus, je vous annonce que le Fils de l'homme, que toi Pierre tu viens de désigner, que c'est moi qui suis le Messie attendu par les prophètes, et proclamé, eh bien il doit souffrir, être bafoué, souffrir sa passion, être mis au tombeau, et le troisième jour, il ressuscitera. Eh bien, ils ne comprennent pas. Et là non plus, on pourrait dire qu'ils ne comprennent pas, sauf qu'il y a un élément supplémentaire, c'est que Jésus leur demande de se taire sur ce qu'ils ont vu.
C'est une question que je vous poserai.
C'est fondamental, ça. Parce que justement, ce n'est pas le déploiement d'une bande dessinée où tout le monde regarde les événements.
C'est une question que je souhaite vous poser, en effet, mais peut-être au préalable, serait-il bon de lire.
Alors je le lis.
L'un des trois récits, l'un des quatre récits, puisque vous dites que Pierre dans...
Oui, il est très court chez Pierre. Ouais. C'est juste la mémoire. Et chez Saint-Pierre, dans la deuxième lettre, c'est le premier chapitre, c'est la mémoire de cet épisode qui justifie son autorité d'apôtre et celle des autres apôtres de l'Église. Les récits sont à peu près les mêmes. Je prends le plus ancien, celui de Saint-Marc, au chapitre 9, et je lis dans la traduction de Sœur Jeanne d'Arc, que j'aime beaucoup, qui est très proche du texte grec. Six jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il les fait monter sur une haute montagne, à part, seul. Il est métamorphosé devant eux. C'est le mot exact en grec qui a donné métamorphose en français. Il est métamorphosé devant eux, ses vêtements deviennent étincelants, extrêmement blancs, tellement que foulon sur la terre ne peut ainsi blanchir. Leur apparaît Élie avec Moïse, ils parlent avec Jésus. Élie et Moïse parlent avec Jésus. Pierre intervient et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici, faisons donc trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Car ils ne savaient que répondre, ils étaient saisis de crainte. Vous voyez, si on fait tout de suite une petite incise, une petite pause, pour dire, qu'est-ce que provoque ce spectacle grandiose? Jésus en conversation avec Élie et Moïse, et puis cette blancheur, cette étincelance, ce soleil, eh bien la peur. Ils ne savent pas quoi dire, ils deviennent muets, et ils ont peur. Et ils proposent, Pierre a proposé au nom des autres, la stabilité de l'instant, en enfermant chacun des trois personnages dans une tente. Verset 7, je continue, donc au chapitre 9 de Saint-Marc. Survient une nuée ça veut dire la présence, c'est un mot très spécial, hein, la présence de Dieu qui accompagnait le peuple à la sortie d'Égypte, c'est à la fois un nuage et de la lumière. Survient une nuée qui les place sous l'ombre. Et survient une voix de la nuée, celui-ci est mon fils, l'aimer, c'est un absolu, l'aimer, agapetos, entendez-le. Et brusquement, ils regardent à la ronde, ils ne voient plus personne, sauf Jésus, seul avec eux. Ils descendent de la montagne, il leur recommande qu'à personne ils ne racontent ce qu'ils ont vu, sinon quand le Fils de l'homme se lèverait d'entre les morts. Ils tiennent bien parole, le verset 10 est fondamental, ils tiennent bien parole, mais ils discutent entre eux, qu'est-ce que se lever d'entre les morts? Ce qu'il faut relever pour cette finale, c'est qu'ils vont accepter de garder le silence sur ce qu'ils ont vu et entendu, parce qu'il y a vision et audition, et il y a plusieurs choses, hein, on peut peut-être avoir un petit moment pour les discerner encore. Ils attendront le moment où il se lèvera d'entre les morts, c'est-à-dire ressuscité. Mais pour l'instant, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Mais quand il sera ressuscité, alors ils témoigneront de la transfiguration. Et ils témoigneront de bien plus. Ils diront, voilà quel était le dessein de Dieu, que nous soyons aimés de la sorte, dans la continuité de la promesse de l'Alliance, la loi, Moïse et les prophètes, Élie. Et voilà maintenant que ce Jésus qui nous avait emmenés à Jérusalem et dont on ne comprenait pas pourquoi il devait souffrir sa passion, maintenant, oui, il devait souffrir sa passion pour nous apporter le salut. Et c'est ce qu'on trouve dans la deuxième lettre de Pierre, au demeurant un peu plus loin, donc dans le Nouveau Testament. Là, je lis tout de suite, ça se sera fait. Deuxième lettre de Pierre, donc l'apôtre qui était témoin, ou en tout cas un de ses disciples qui a rédigé la lettre, si on n'est pas certain de l'authentification, mais c'est parole de Dieu de toute façon, versets 16 et à 19. « Ce n'est pas en nous mettant à la traîne de fables sophistiquées que nous, les apôtres, avons fait connaître à l'Église la puissance et la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais pour l'avoir vu de nos yeux dans tout son éclat. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la voix venue de la splendeur magnifique lui dit, citation, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qu'il m'a plu de choisir. » Et cette voix, nous-mêmes, ajoute Pierre, nous-mêmes, nous les apôtres, et cette voix, nous l'avons entendue venant du ciel quand nous étions avec lui sur la montagne sainte. Le témoignage aujourd'hui de la présence de Jésus comme sauveur vient de ce parcours d'expérience de Pierre et des apôtres. Et je répète ce mot que j'ai dit au début pour une autre question, de non-évidence. Il fallait passer par ce chemin de crête, en quelque sorte, ce chemin ardu, ce chemin qui oblige à voir l'épreuve, la mort, les assauts du diable et de toute puissance contraire à la vie, pour que les apôtres, ayant aussi bénéficié de l'éclair, de révélation, de la transfiguration, donne le sens exact de Jésus qui est à la fois le crucifié et le ressuscité, et en ces deux dimensions, le sauveur, le rédempteur du genre humain et de toute la création de Dieu.
Trois évangélistes évoquent cet épisode. Oui. De manière parfois un peu... Il y a quelques différences.
Il y a des nuances, oui.
Quelles sont les différences principales ? Ils ne mettent peut-être pas forcément l'accent sur les mêmes faits.
Si, les faits sont les mêmes. Il y a peut-être la différence que chez Saint-Luc, il est bien indiqué que c'est pour prier qu'ils sont montés à la montagne. Ce qui n'est pas dans Saint-Marc, par exemple. Il les fait monter sur une autre montagne à part seul. Mais que fait Jésus quand il est tout seul sur une montagne ? C'est des petites collines, hein, c'est pas très haut. C'est plutôt désertique, hein. C'est ça que ça veut dire. Donc là, il y a une nuance qui, plus exactement, c'est une entrée en profondeur. Qu'est-ce qu'ils faisaient donc là, les quatre, Jésus et les trois ? Ben, ils sont allés prier. Et c'est dans le cadre de la prière que se révèle la vision et la conversation avec Élie et Moïse. Il y a aussi une manière différente de le dire, Élie et Moïse, Élie avec Moïse, etc. Ils parlent avec Jésus, etc. Et il y en a même un des évangélistes qui dit qu'il parle de son départ vers Jérusalem. Ben voilà.
Il parle avec Élie et Moïse.
Élie et Moïse parlent à Jésus de son départ à lui, Jésus, vers Jérusalem, c'est-à-dire de sa passion.
Et les trois apôtres l'entendent.
Ils entendent ça, mais ils disent rien. Ils disent rien, sauf l'intervention avec l'histoire des trois tentes que l'on va dresser. Donc, reprenons. Élie et Moïse apparaissent en même temps que Jésus transfiguré. Ça fait trois personnages, tout d'un coup, alors qu'ils ont accompagné Jésus dans sa prière. Mais peut-être jusque-là, jusqu'à ce moment-là, sont-ils encore... Dans l'ajustement, parce qu'ils ont déjà assisté à la prière de Jésus, ça devait être extraordinaire d'être à quelques distances et de sentir que Jésus était pleinement investi de la présence du Saint-Esprit, qu'il parlait à son Père, etc. Et là, il y a Élie et Moïse. qui leur sont familiers. Ils connaissent l'écriture sainte de leur peuple. Et ces deux-là, alors ils ne sont pas toujours de même ordre, il y en a un qui dit c'est d'abord Moïse, l'autre Élie, mais peu importe, ils sont, peut-être que c'est ce sont des réflexes simplement de citer premièrement un prophète ou premièrement celui de la loi, un juif qui dira premièrement Moïse, évidemment, dans la loi. Ils sont en conversation, en une sainte et spirituelle conversation avec Jésus au sujet de sa passion. Il n'y a qu'un seul évangéliste qui dit ça, mais là, on découvre alors que c'est... Que le sens de toute cette histoire, c'est pas de nous impressionner, de dire Jésus est formidable du début à la fin et qu'il sera lumineux à la fin, c'est de dire que avant même que tous, après sa résurrection, tous, pas ceux qui sont là, ils sont trois, tous pourront comprendre le visage lumineux de Jésus parce qu'il aura été crucifié et déposé dans un tombeau.
Tous, les trois évangélistes évoquent le départ à Jérusalem, cette discussion.
Non, un seul.
Un seul.
Les autres, ils disent simplement qu'il parlait avec Jésus.
Il parlait. Un seul, c'est
Saint-Luc.
C'est Luc qui évoque donc, le départ à Jérusalem. Mais Luc évoque-t-il la passion? Est-ce que le terme passion est...
Non,
c'est simplement Moïse, Élie et Jésus évoquent le départ
exactement.
De Jésus à Jérusalem.
C'est même plus fort que ça, parce qu'il y a un mot grec, mais qui est évidemment hébreu avant, qui est le mot exode. Voici deux... je lis les versets 30 et 31 dans l'évangile de Saint-Luc au chapitre 9. Voici deux hommes parlent avec lui. Ce sont Moïse et Élie.
Vous voyez, ils les reconnaissent.
C'est pas la même. Ben là, c'est le récit. C'est, à chaque fois, c'est un récit. C'est
oui.
pas. Donc, c'est pas Pierre qui dit ça.
Oui.
C'est à chaque fois, c'est l'histoire revisitée. Hein. Donc, chacun raconte à sa manière. Mais vous voyez qu'au lieu de dire comme chez Marc, leur apparaît Élie avec Moïse, ils parlent avec Jésus. Ça, c'est Marc, la chose la plus probablement la plus ancienne hein, de raconter cette histoire. Luc, il y met un peu plus de forme, comme d'habitude d'ailleurs. Luc a un style extraordinaire. Hein. Et très théologique, très, très, très profondément dans la connaissance de comment nous devons accueillir cette merveilleuse histoire. Voici deux hommes. Alors, au début, vous voyez, nous aussi, c'est la première fois qu'on entend ça. Ah, il y a deux hommes avec Jésus. Mais on nous précise, parle avec lui, ce sont Moïse et Élie qui apparaissent en gloire. Donc, ils sont associés à la gloire de Jésus.
Donc, aussi, ils sont aussi dans une lumière
ben,
extraordinaire.
Eh oui. Verset 31, deuxième partie, il est question de son exode qu'il doit accomplir à Jérusalem. Et alors là, si ce n'est pas explicite, il est question de son exode. L'exode, c'est la sortie d'Égypte, hein, c'est la libération du peuple juif vers la terre promise. Il est question de son exode, à lui Jésus, qu'il, Jésus, doit accomplir à Jérusalem. Élie et Moïse s'entretiennent de cela avec Jésus. En présence de trois auditeurs stupéfaits qui ont déjà entendu que Jésus devait mourir à Jérusalem, mais qui n'ont rien compris, et qui là, dans la suite du récit de Luc, non seulement sont perplexes, mais ne vont pas intervenir tant que la vision dure. Elle doit être très brève. Je lis le verset 32, donc dans Luc.
«
Pierre et ceux d'avec lui sont alourdis de sommeil. Ils restent éveillés et ils voient sa gloire et les deux hommes se tenant avec lui. Or, quand ils se séparent de lui, donc Élie et Moïse, Pierre dit à Jésus, donc il n'y a déjà plus Élie et Moïse, au moment où Pierre commence à parler. C'est-à-dire qu'on est dans un
instant de trois tentes.
C'est ça, il propose trois tentes.
Alors tout est fini.
La vision spectaculaire, merveilleuse, elle est terminée.
Oui.
C'est-à-dire qu'on pourrait presque dire que c'est Pierre qui l'a interrompu parce qu'il intervient en proposant une chose.
Vous pensez que...
Non, je le suggère et je ne l'affirme pas. Mais c'est quand même intéressant parce qu'il ne peut pas y avoir d'incidence d'une parole humaine dans le projet de Dieu.
Mmh.
Ça, c'est très important. Ce que Élie et Moïse se disent en même temps qu'ils le disent à Jésus, c'est la continuation de la parole de Dieu. Et il ne peut pas y avoir une parole humaine qui ajoute quelque chose.
Mmh.
Et en plus, pour dire une pareille ineptie, auquel Jésus ne donne pas suite de construire pour chacun une tente, c'est-à-dire de les enfermer et surtout, écoutez bien ça, de les séparer. Ils sont unis dans la gloire qui les couvre. Et Pierre veut une tente pour l'un, une tente pour l'autre et une tente pour Jésus. C'est la rupture.
Pasteur Alain Joly, nous allons revenir sur le sens de la proposition de Pierre. Effectivement, pourquoi trois tentes, une pour chacun? C'est certainement une explication donnée. J'aimerais quand même poursuivre, si vous le voulez bien, sur cette discussion, c'est primordial que nous comprenions ça, entre Jésus, Moïse et Élie. La discussion, c'est l'exode à Jérusalem.
Oui,
mais
le sien, celui de Jésus, qu'il doit accomplir.
Oui, c'est ça, qu'il doit accomplir. Hein, cet exode qu'il doit accomplir à Jérusalem. Mais quelqu'un qui entend ça d'extérieur ne peut pas associer ça à la passion.
Mais personne n'entend ça. Il n'y a que Pierre, Jacques et Jean. Et je vous ai dit qu'ils ne le comprenaient même pas.
C'est ça, voilà.
Donc, il n'y a pas de vous torturer l'esprit non, pour savoir comment les gens pouvaient interpréter à l'époque.
Je vous pose cette question parce que vous nous expliquez que la transfiguration, c'est en quelque sorte pour préparer les apôtres
à la passion
du Christ, etc. Mais en quoi ça les prépare? Parce qu'ils ne le comprennent pas.
Mais si, parce qu'ensuite... ils obéissent, mais parce que au-delà de la vision, il y a eu la parole. Il y avait quelque chose à entendre. Et ce n'était pas la conversation d'Élie et Moïse avec Jésus. C'est « Celui-ci est mon fils, écoutez-le ». Donc, ils sont réassurés dans le fait que maintenant qu'ils vont reprendre la route vers Jérusalem, ils doivent écouter Jésus qui s'en va pour souffrir sa passion.
Oui, mais ils n'associent pas l'exode directement à la passion.
Il y a le rappel de Dieu,
que c'est mon fils, écoutez-le.
Si, parce qu'ils entendent. Si, parce qu'on ne peut pas supposer que Saint-Luc invente le sujet de conversation d'Élie et de Moïse. C'est bien que Pierre a raconté ça, ou Jacques et Jean.
Mais...
donc ils ont entendu que Élie et Moïse s'entretenaient avec Jésus de son exode, et exode veut immanquablement dire la libération, la sortie vers par la mort pour la vie.
Pardonnez-moi, pasteur Alain Joly, mais est-ce que exode pour Luc, Pierre et Marc qui sont là, qui entendent?
Ah non, c'est Pierre, Jacques et Jean qui entendent. Luc,
il n'entend
pas.
Et Jean,
Luc,
pardon,
il raconte
Marc
après.
Pardonnez-moi. Ça aussi, on va revenir. J'ai une question à poser là-dessus.
Bon.
Beaucoup de questions à poser. Pierre, Jacques et Jean entendent l'exode. Mais comment peuvent-ils l'associer
n'importe quel
à la
juif
passion.
Qui entend ça à cette époque, il comprend que,
il
c'est,
comprend que la passion
que
est à venir.
Que c'est une passion sans qu'on discerne forcément que c'est la passion salutaire. Mais ils discernent parfaitement que Jésus doit accomplir un chemin de mort. Ça, c'est fondamental. Mais il n'y a aucune surprise là.
D'accord.
Parce que les prophètes ont annoncé qu'il y aurait un serviteur souffrant, parce que les prophètes eux-mêmes ont été persécutés et ont subi des assauts mortifères, et que ce Jésus, il va accomplir son parcours de traversée de la mort. Et ça, ils le comprennent parce qu'il y a ce mot exode. Et puis,
d'accord.
Luc, quand il le raconte, il sait bien qu'ils n'ont pas entendu une simple conversation sur le temps ou sur le fait que personne ne comprend. On est dans la révélation de quelque chose qui doit être sans cesse revisité pour le contempler.
Alors, pasteur Alain Joly, dans deux minutes, nous devons faire une petite pause de mi-émission et nous poursuivrons bien sûr cette conversation. Encore une question, si vous voulez, juste avant cette pause. Pourquoi Élie et pourquoi Moïse?
Mais ça, c'est le résumé classique dans le Nouveau Testament de la loi et les prophètes. Ils incarnent l'un et l'autre, les prophètes et tous les législateurs, et Moïse étant le législateur par excellence. La loi et les prophètes, ce sont les deux signes considérables de l'alliance que Dieu fait avec son peuple pour l'amener à rédemption. On peut en rester avec le peuple juif à recevoir la bonne parole de la loi et des prophètes et attendre le Messie. Mais là, dans ce cas précis, il y a l'idée d'accomplissement qui est annoncée, qui est déjà inscrite, même plus qu'annoncée, c'est inscrit dans la loi, les 10 commandements et tous les livres du Pentateuque, de la Torah, spécialement le Lévitique et les Nombres, et le Deutéronome bien sûr, et les prophètes qui ont sans cesse interpellé le peuple à se préparer à l'avènement de la grâce et à cesser de vivre sans Dieu, finalement, ou avec Dieu, mais en s'accommodant, en faisant des marchandages de toutes sortes. La loi et les prophètes sont ce qui est nécessaire pour l'accomplissement de Jésus
donc
en vertu de Jérusalem.
Donc c'est Moïse et Élie qui incarnent la
Ils
loi.
Ils incarnent tous les deux.
Et les prophètes. Très bien. Nous faisons une pause et nous reprenons cette discussion, monsieur le pasteur, après cette pause.